Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus dans les prochaines heures à Bamako pour le 27e sommet Afrique-France, un sommet qui se tiendra dans un contexte particulier et pour cause, ce sera l'occasion pour le président François Hollande, qui n'est pas candidat à sa propre succession, de faire ses adieux à l'Afrique. Nous allons donc ensemble, durant les 20 prochaines minutes, dresser le bilan de sa politique africaine. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il était encore candidat à l'élection présidentielle, il s'était engagé à rompre avec la France-Afrique en proposant, disait-il, une relation fondée sur l'égalité, la confiance et la solidarité. Alors, 5 ans plus tard, la rupture annoncée a-t-elle eu lieu? Nous vous posons la question et on a envie de vous entendre, évidemment, sur l'antenne des RFI. En tout cas, sur le continent, de nombreux opposants lui reprochent son silence sur les modifications constitutionnelles qui ont permis à certains chefs d'État de se représenter. Son silence également sur les réélections contestées, notamment de Denis Sassou Nguesso au Congo, d'Idriss Déby Itno au Tchad ou encore d'Ali Bongo au Gabon, et son quinquennat aussi aura été marqué par l'intervention de la France, l'intervention militaire au Mali, en Centrafrique et plus largement au Sahel avec l'opération Barkhane, des interventions qui font dire d'ailleurs à certains que sous François Hollande, la France est redevenue le gendarme de l'Afrique. On en parle, 33 9 693 693 70, sur les réseaux sociaux, Fadel nous dit sur Facebook, François Hollande n'est pas parvenu à soutenir les sociétés civiles africaines sur le plan militaire, oui, il a joué aux gendarmes, mais au niveau politique, il a cautionné trop d'élections frauduleuses, notamment, nous dit notre auditeur Fadel, au Congo et au Gabon. On va voir ce qu'en pense Loïc, qui est en ligne d'Abidjan. Bonjour Loïc.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Quel bilan dressez-vous de la politique africaine de François Hollande?
Le bilan que je dresse est totalement mitigé. Je pense que François Hollande a préféré la réelle politique à la promotion de la démocratie en Afrique. Ceci dit, il a préféré, par exemple, fermer les yeux sur les différentes modifications constitutionnelles qui ont permis à certains présidents africains, Sassou Nguesso et Idriss Déby, en Djibouti, etc., de rester au pouvoir. Et il a négligé la promotion de la démocratie, et c'est ce qu'on peut valablement reprocher à François Hollande.
Mais quand vous dites, excusez-moi Loïc, quand vous dites qu'il a fermé les yeux sur les révisions constitutionnelles dans certains pays pour permettre effectivement au président sortant d'être à nouveau candidat, vous auriez souhaité quoi? Vous attendiez quoi de la part de François Hollande?
Et entendre le même discours lorsqu'il parlait de mettre à mort, mettre à fin à la France-Afrique, se prononcer, prendre position, dire par exemple la France est contre les modifications constitutionnelles et la France va rompre les relations diplomatiques avec tous les pays qui vont s'amuser à modifier leur constitution et à maintenir des présidents qui sont élus indéfiniment depuis 20 ans, 30 ans.
Oui.
La France n'a pas attendu d'intervenir au Mali, la France n'a pas attendu d'intervenir en Centrafrique. Il aurait fallu que la France, politiquement aussi, prenne position comme elle a pris position contre le désordre militaire un peu partout, le scandale.
Ouais. Enfin, je vous rappelle quand même que, s'agissant des révisions constitutionnelles, François Hollande a tenu un discours à Dakar, je crois que c'était en novembre 2014, où il mettait en garde les chefs d'État qui étaient tentés de modifier leur constitution pour se représenter. Il avait fait d'ailleurs des allusions, pour le moins claires, au président congolais Denis Sassou Nguesso, ce qui a valu ensuite une brouille entre Paris et Brazzaville. Mais enfin, voilà, il a critiqué, alors peut-être que vous attendiez davantage ensuite, notamment s'agissant du Congo-Brazzaville, puisqu'on en parle, effectivement, il avait d'abord critiqué, puis ensuite, un ou deux jours avant le référendum constitutionnel, il avait dit que le président Denis Sassou Nguesso pouvait effectivement organiser un référendum, ce qui a déçu évidemment une grande partie de l'opposition congolaise. Ne raccrochez pas Loïc, on va voir si Issoufou, qui est au Mali, à Gao exactement, partage la même analyse. Bonjour Issoufou.
Bonjour Anne et bonjour tous les auditeurs de RFI.
Loïc disait, François Hollande a privilégié la réelle politique. Vous partagez cette approche?
Malheureusement, je ne partage pas ce point de vue parce que moi je considère, surtout pour nous Maliens, que vraiment le mandat de François Hollande est positif pour nous Maliens parce que ça nous a permis vraiment de bouter les terroristes hors de notre territoire, même si toujours des ramifications existent. Je pense que ce mandat est salutaire, parce que contrairement à Sarkozy, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne doit pas juger un homme par les actes d'un autre homme. Sarkozy a posé des actes. Oui, Sarkozy n'était pas du tout. Vous rappelez de son discours qu'il a tenu au Sénégal pour dire que l'homme africain n'est même pas rentré dans l'histoire. Et là, François Hollande est venu. Il a apporté vraiment des modifications. Il a eu même à prononcer des discours à Bamako pour dire devant le monde entier que l'Africain a donné l'Africain sa place qu'il mérite. Et il a poursuivi avec son intervention au Mali qui aujourd'hui, grâce à Barkhane, l'ancêtre d'abord Serval et oui. Barkhane aujourd'hui, les Maliens arrivent à respirer.
Alors les Maliens arrivent à respirer, mais il y a comme un goût d'inachevé tout de même, puisque au Mali, l'opération française a permis d'organiser des élections, mais enfin le pays n'a pas totalement retrouvé sa stabilité.
Les réseaux, j'ai du mal à vous entendre.
Ah, vous avez du mal à nous entendre. Simplement, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on assiste encore à des actes de violence et ils sont nombreux au Mali malgré l'opération Serval et l'opération Barkhane aujourd'hui.
Oui, les actes de violence, ça c'est même dans les pays, même aux États-Unis, même en France, même les terroristes là sont, même en France il y a des terrorismes, même aux États-Unis il y a toujours des paniques. Donc ce que nous voudrions dire aujourd'hui, c'est que nous devons soutenir les actions qui ont été déjà prises. Aujourd'hui, grâce au mécanisme opérationnel, moi je suis satisfait de voir que le mécanisme opérationnel de coordination est en phase opérationnelle aujourd'hui et dans sa phase de mise en œuvre. Ça c'est des actes qu'il faut saluer. Même si les terrorismes viennent d'avant, parce que ce qu'il faut comprendre, le cas du Mali, c'est beaucoup compliqué, parce que souvent, ce qu'on appelle terroriste, souvent on n'arrive même pas à identifier ce qu'on appelle djihadiste, ce qu'on appelle terroriste et ce qu'on appelle groupe d'autodéfense.
Ouais, bon, on va pas faire une émission sur la situation sécuritaire au Mali. En tout cas, vous êtes satisfait, vous, de l'opération Sangaris, lancée en décembre 2013. La relève ensuite a été prise par l'opération Barkhane, qui, elle, concerne pour le coup le Sahel. Donc, elle ne se concentre pas uniquement au Mali, elle concerne plusieurs pays sahéliens, notamment le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi la Mauritanie. Merci Issoufou de nous avoir appelé. Moussa sur Facebook nous dit que il est en Guinée et il nous dit: les Guinéens nous retiendront de la politique africaine de François Hollande, sa visite ici à Conakry en novembre 2014 pour renforcer la lutte contre le virus Ebola. Guy, vous êtes à Cotonou au Bénin. Bonjour à vous.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Quel bilan dressez-vous de la politique africaine de François Hollande? Que retiendrez-vous?
Globalement, je retiens que le bilan africain de François Hollande est mitigé. Mitigé, et ça laisse un goût d'inachevé, parce que Hollande est venu et les Africains de ma génération à moi, et je parle en tant que citoyen béninois, en tant qu'Africain, je dis que François Hollande a échoué en Afrique.
Alors attendez, quand vous dites de ma génération à moi, vous avez quel âge, si ce n'est pas trop indiscret, Guy?
Je suis dans la quarantaine.
La quarantaine, bon d'accord, très bien. Alors pourquoi vous a-t-il déçu?
Alors, parce qu'il n'y a pas eu de changement dans la politique française en Afrique. Je parle précisément de l'Afrique francophone. Alors, lorsque on sait déjà que la France ne défend que ses intérêts, ça n'a pas du tout changé quand Hollande a pris le pouvoir. Et je suis au regret de dire à celui qui a parlé tout à l'heure, le Malien, qui est tout à fait satisfait du bilan de François Hollande. Mmh. Mais je suis au regret de lui dire que pourquoi Hollande s'est arrêté, pourquoi les troupes françaises se sont arrêtées à la porte de Kidal. Il parle d'insécurité aujourd'hui au Mali, mais c'est ça. Les Français auraient pu dégager les djihadistes qui sont tapis dans le Sahel, et précisément à Kidal. Mmh. Aujourd'hui, et toute cette bande armée, surarmée, mais qui vivent de ça? Il n'y avait que l'armée française pour les détruire. Les Algériens étaient prêts en ce moment-là pour appuyer au niveau de leurs frontières, dans le sud de Tamanrasset. Mais les Français sont arrêtés là.
On va pas refaire, je le disais tout à l'heure, un débat sur la situation sécuritaire au Mali, même si évidemment l'opération Serval a compté lors de son mandat et dans sa politique africaine. Il n'y a que ce point-là que vous retiendrez des 5 années de François Hollande à l'Élysée.
Non, il n'y a pas que ça. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi un Africain francophone se rend en France? Et les visas, l'attribution des visas, c'est compliqué. Oui. Alors que La France doit changer de vision par rapport aux Africains. Les Africains d'aujourd'hui ne veulent pas aller vivre en Afrique. La vie est ici, l'avenir est ici en Afrique.
D'accord. Bon, bah ça ne dit toujours pas ce que vous reprochez concrètement à François Hollande, hein, Guy. On va donner la parole à d'autres auditeurs qui seront peut-être un peu plus explicites dans leurs arguments, peut-être, je ne sais pas. Paul-Marie, bonjour.
Bonjour Juan et bonne année à vous.
Merci, tous nos voeux également. Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Oui, je suis à Brazza et vu du Congo, je dirais tout bonnement que François Hollande n'est pas entré dans l'histoire. En tout cas, les Congolais ont été désillusionnés par le fait que François Hollande a prononcé un discours assez musclé, assez déterminant, contre les changements de constitution, contre le tripatriage des élections, malheureusement. Pour les Congolais, on gardera le souvenir d'un président qui n'a pas su franchir le Rubicon. Le président Sassou a changé de constitution. Il a fait une élection anticipée qui n'avait pas lieu d'être en ce moment-là. Et finalement, il s'est octroyé une victoire sans que la France n'ait dit un seul mot, tout au moins sans que François Hollande...
Mais vous auriez souhaité que François Hollande s'ingère dans la politique congolaise ?
Il n'y a pas d'ingérence qui vaille dans ce sens. La démocratie, elle est universelle. Et pour les Congolais, la France reste, j'ai envie de dire, la mère patrie. C'est peut-être une expression excessive, mais c'est la vérité. Et que François Hollande, qui s'était déjà engagé contre le changement de constitution, aurait pu aller plus loin. Ouais. Par exemple, faire qu'il y ait des mesures de répression au plan économique, au plan de la diplomatie. Voilà ce que les Congolais attendaient pour faire fléchir la position du président.
Peut-être, Paul-Marie, on l'entend, mais si ma mémoire est bonne, et excusez-moi de ne pas avoir toutes les constitutions en mémoire, mais rien n'interdisait, constitutionnellement parlant, à Denis Sassou Nguesso d'organiser un référendum pour modifier la constitution.
Non, pas pour modifier, pour changer carrément de constitution.
D'accord, mais
constitutionnel... Cela était interdit. C'était interdit par la constitution qui avait, en son dernier article, je pense, qui avait prévu qu'aucune modification, aucun changement ne pouvait se faire. Donc la constitution ne pouvait pas prévoir des mécanismes de sa propre mise à mort, ce n'est pas possible. Il l'a fait en prétextant des rencontres citoyennes, en prétextant que c'est le peuple qui le voulait.
Donc
mais en
vous...
réalité, c'est lui qui le voulait.
Pour vous, François Hollande, Paul-Marie a trahi un peu ce qu'il avait promis lors de sa campagne électorale.
Et tout à fait. Il a trahi et sa campagne et le discours de Qatar. Il a tout trahi. Mais c'est un peu le genre. On a vu que même en France, il a beaucoup hésité à prendre un certain nombre de mesures. Mmh. Il avance un peu à pas de caméléon. Bon, c'est bien dommage.
Sur d'autres aspects de la politique africaine, il n'a pas hésité. Hein. On a bien vu qu'il n'avait surtout pas hésité, notamment pour déployer des troupes françaises au Mali, stopper les djihadistes qui venaient du nord du pays et qui menaçaient de s'accaparer de Bamako, la capitale. Olivier, vous nous appelez de Bangui. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bangui. On parlait des interventions militaires lancées par le président Hollande. La Centrafrique a vu débarquer sur son sol l'opération Sangaris, qui devait durer 6 mois et qui finalement a duré quasiment 3 ans.
Oui, effectivement, sur le bilan de François Hollande durant ces 5 ans, on retiendra finalement l'intervention des forces Sangaris en Centrafrique. Et cette intervention se termine un peu d'une manière brusque. C'est vrai qu'au début, elle a été salutaire pour le peuple centrafricain, parce que la Sangaris a permis de stopper l'avancée des rebelles. Elle a permis, en collaboration avec les forces des Nations Unies, l'organisation des élections pacifiques et réussies, mais le retrait des forces de Centrafrique en novembre dernier a été très brusque, parce que le pays n'est pas totalement pacifié. Les groupes rebelles sont encore actifs à l'intérieur du pays et la paix n'est revenue que partiellement dans la ville capitale qui est Bangui. Donc le Centrafricain lambda un peu sur le goût d'inachevé de cette mission-là.
Ouais. Ne raccrochez pas, Olivier, on a justement Rémi, l'un de vos compatriotes qui nous appelle également de Bangui. Bonjour Rémi.
Bonjour Juan, bonne année à tous.
Merci, bonne année à vous également. Vous diriez qu'il y a comme un goût d'inachevé dans l'opération Sangaris ?
Mais tout d'abord, ce que mes compatriotes centrafricains ou bien africains doivent retenir, François Hollande, c'est le président de la France. Et nous aussi, nous avons des présidents qui qui sont nos représentants, qui sont censés respecter les institutions de la République. Je voulais dire ceci par rapport à la République centrafricaine, la politique d'Hollande en République centrafricaine. Hollande, dans des moments difficiles, a engagé les forces françaises en République centrafricaine. Mais ces forces françaises ont accompagné la République centrafricaine en diminuant les exactions des rebelles sur le territoire national, accompagné la transition jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui des représentants légalement élus, des représentants légitimes, je peux dire. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est au tour du gouvernement maintenant de prendre la relève, d'assurer la sécurité des Centrafricains. Hollande ne peut pas, ou bien la France ne peut pas être toujours là, à côté de la République centrafricaine, avec des armées, avec des forces armées partout.
Oui. Et donc, d'autant qu'il reste encore quelques centaines de soldats français en Centrafrique, et puis j'ai envie de dire, vous n'êtes pas totalement livré à vous-même face aux différents groupes rebelles qui refusent de désarmer. L'ONU déploie sur le terrain des milliers de casques bleus. Merci Rémi et merci également à Olivier. Hein, tous les deux, vous nous appeliez de Bangui. Diego, vous êtes à Kinshasa.
Oui, bonjour Juan et merci à vous.
Merci, bonne année. Quel bilan dressez-vous? Que retiendrez-vous de la politique africaine de François Hollande?
François Hollande a eu une politique, je dirais, négative à l'égard de l'Afrique. Parce que lors de sa prise de pouvoir, Hollande nous avait dit que lui, le président, il ne cautionnera jamais de pouvoir mal élu. Mais il a menacé aussi de boycotter les assises de la francophonie de Kinshasa. Et puis enfin, il a fait volte-face, et il a été à Kinshasa, il a serré la main de Kabila comme président, il lui a réussi à Paris. Donc,
Je rappelle juste pour nos auditeurs, parce que là, vous citez des événements et tout le monde n'a pas en mémoire tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il promet de rompre avec la France-Afrique. Ça, c'était pendant la campagne électorale. Quelques mois après son élection, il est critique sur la situation concernant votre pays. Une situation qu'il juge inacceptable sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur la reconnaissance de l'opposition. On se dit, tiens, il y a de l'eau dans le gaz entre Paris et Kinshasa. Il se trouve que la francophonie doit tenir son sommet à Kinshasa et la question se pose, François Hollande ira-t-il à Kinshasa alors qu'il tient des propos pour le moins critiques sur la situation dans ce pays? Finalement, il y va, finalement, il serre la main à son homologue congolais et donc tout cela vous déçoit?
Nous avons été très très déçus par rapport à cet égard, Juan, parce que aujourd'hui, tout ce que François Hollande déplorait, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une restriction manifeste de la liberté d'expression. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas le droit de manifester. Tout ça, c'est sous le nez, la barbe de François Hollande. Il nous a laissé un peu sur des goûts rhétoriques par rapport à ses discours, mais sur le plan pragmatique, il n'a rien fait au sujet de l'Afrique. Étant donné que...
Donc ça signifie quoi? Que pour vous, la rupture annoncée n'a pas eu lieu et finalement, la politique africaine de François Hollande s'inscrit dans une certaine continuité de celle qui était menée auparavant par Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande, François Mitterrand?
Justement, Juan, parce que si vous constatez dans tout le pays africain où il y a des présidents qui mettent très longtemps au pouvoir, ils sont toujours là. François Hollande a coopéré avec eux. Il n'y a pas eu de mesures très fermes à leur égard. Nous avons entendu des discours de part et d'autre, du part du Quai d'Orsay et même de l'Élysée, mais sur le plan pragmatique, il n'y a eu aucune action de la part de la France.
Oui. Enfin, certains, à l'Élysée, on dit il n'y a pas eu rupture, certes, mais nous n'avons pas non plus déroulé le tapis rouge à ces dirigeants que vous venez de citer. Merci à vous et merci à vous tous. On arrête là aujourd'hui le débat concernant la politique africaine de François Hollande. Nous reviendrons évidemment tout au long de cette journée et de demain sur ce sommet Afrique-France que vous pourrez suivre avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants à Bamako. Et nous, lundi, eh bien, on reviendra justement sur les temps forts de ce sommet et nous lancerons le débat sur l'utilité finalement de ce rendez-vous diplomatique, sur les relations franco-africaines, comment doivent-elles évoluer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, on vous attend, le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Excellente fin de semaine.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.